Au début du mois de mars, Manuel Valls est en visite à l'université de Strasbourg, l'une des 6 universités françaises où les responsables religieux, notamment les imams étrangers, peuvent se former à la laïcité. Le gouvernement voudrait porter le nombre de ces établissements à 12. Bordeaux aura le sien dès la rentrée 2015. Lors de son déplacement en Alsace, le Premier ministre plaide pour des aumôniers et des imams français, francophones, qui apprennent le français, qui aiment la France et qui adhèrent à ses valeurs. Car parmi les 1800 imams qui exercent dans l'Hexagone, beaucoup sont formés à l'étranger. Certains passent par le centre de formation de l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, installé dans la Nièvre. D'autres encore apprennent auprès d'imams savants. C'est le cas de Mahmoud Doua, imam de la grande mosquée de Senon, près de Bordeaux. Docteur en sciences politiques d'origine mauritanienne, il s'est instruit auprès de Tarek Oubrou, le recteur de la grande mosquée de Bordeaux, réputé pour défendre un islam libéral. Nous avons voulu savoir quelle importance Mahmoud Doua occupait au sein de la communauté musulmane. Il s'avère qu'il n'est pas qu'un référent spirituel, il est aussi un assistant social, un conseiller conjugal et un psychologue.
Vendredi, 13h, jour de prêche à la mosquée de Senon. Un reportage de Clément Guerre et Fanny Leyson.
Bonjour.
Ça va, Amine ?
Ça va ?
Bonjour.
Bonjour.
Tu t'appelles comment ?
Ahmed.
Okay. Et tu étais à quel âge ?
Ouais, j'ai 26 ans.
Et tu fais quoi ?
Ouais, je suis un bénévole ici. Mais... Là, on est en face de la bibliothèque. Là devant, on a les étagères pour mettre les chaussures. Pour le vendredi, il y aura beaucoup de monde. À peu près, on reçoit chaque semaine presque 1000 personnes. Il y a devant la salle principale.
Qui est au premier ?
Au premier ouais. Étage.
On y va ?
On y va pour la regarder.
Cette salle, elle est très belle.
On a tout changé pour l'année dernière. On a changé le tapis. Là où on a écrit des versets de Coran en rouge. Et on a un mimbar, on l'utilise juste pour la prêche de vendredi, pour l'imam. Il monte pour que tout le monde il se met en image, pour que tout le monde le voit. Et avec son micro, il explique un thème sur la religion, la citoyenneté française.
Alors, je m'appelle donc Mahmoud Doua, je suis imam à la mosquée de Senon.
Mais vous avez quelques prédicateurs qui vous disent, et pourtant, Dieu a promis l'enfer éternel pour les criminels, pour celui qui a tué. Il utilise le mot Khalid, Khouloul, qu'on peut comprendre comme un châtiment infini. Mais les simples règles de la langue arabe, de toute langue, les linguistes savent que le mot, le sens du mot, dépend de son usage. Ça dépend du contexte de la phrase. Le même mot peut avoir des sens différents selon la phrase.
Imam, c'est celui qui se met devant, donc c'est celui qui encadre religieusement la communauté. Mais c'est un titre générique. Il y a plusieurs sortes d'imams. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de clergé en islam, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il n'y a pas un clergé au sens d'ordonner les imams, mais il y a quand même des savants, ce qu'on appelle les imams savants, ce sont d'ailleurs peu nombreux. Vous avez ce qu'on appelle des imams prédicateurs, comme moi, qui essaient de simplifier, de vulgariser le travail des savants pour la communauté. Donc je fais essentiellement les prêches du vendredi, je fais les cours pour les enfants, l'équivalent des catéchismes, l'enseignement de l'islam. Et puis bien sûr, comme tous les religieux, l'encadrement social, psychologique de la communauté, c'est-à-dire on est aussi des médiateurs, on est aussi des conseillers. Hein. Les gens viennent nous demander des conseils, parfois même pour l'orientation de leurs enfants, etc. Donc quand il y a des problèmes entre les familles ou entre les musulmans, on est aussi des arbitres. Donc on fait ce travail quotidien. J'encadre un peu la pratique des musulmans en France pour qu'elle se fasse dans l'harmonie, voilà, l'apaisement.
Le rôle de l'imam dans un pays musulman et en France, il est différent ?
C'est pas du tout la même chose, parce que là-bas, vous avez aussi la société qui forme, vous avez les imams sont formés, il y a des instituts, il y a des universités, ils sont salariés de l'État, ce qui n'est pas le cas ici, donc Non, un imam ici, c'est beaucoup plus vaste. C'est pour cela qu'il a besoin d'une formation beaucoup plus approfondie.
Comme a dit le prêche d'aujourd'hui, il y en a qui utilisent le Coran en le mettant à comme ils veulent.
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut un minimum d'éducation.
Alors moi, c'est Manon, j'ai 23 ans. Et voilà, je suis convertie à l'islam depuis maintenant, on va dire avec le cœur, hein, depuis cet été. Quand on est dans l'islam, quand on veut apprendre l'islam, c'est l'éducation qui va être la plus importante. Et beaucoup vont squeezer, si je puis me permettre, l'éducation. Et voilà, ils vont plus rapporter sur les interdits, ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Elle vient de se convertir, donc il y a peut-être des choses qu'elle a fait en mal, et on lui dit, bah, du coup, bah, y a des choses qui seront pas pardonnées, il y a des choses qui sont pas bien que t'as faites. Et du coup, bah, la meilleure personne avec qui discuter, c'est l'imam. C'est pour ça que, voilà, qu'il y aura vraiment les vraies réponses et non pas des choses qui sont reprises par certaines personnes selon eux, ce qu'ils pensent.
Alors, je m'appelle Mathieu et on est à la mosquée de ce nom. Moi, il y a 5 ans que je me suis converti. Donc, j'avais, là, actuellement, j'ai 27 ans, donc j'en avais 22 à l'époque.
C'est quoi un imam en fait?
Alors, déjà, c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des études, donc qui connaît, qui maîtrise son sujet beaucoup plus que ce qu'il disait les discussions de café avec les gens qui connaissent ce qu'ils ont entendu dire et ceci et cela, et les bruits de couloir et ce qu'on appelle le téléphone arabe. On va dire que c'est un pilier pour les gens. Après, voilà, faut aussi avoir l'esprit critique, c'est-à-dire que tous les imams ne sont pas forcément bons, et je pense qu'on va aussi vers les imams qui, entre guillemets, nous ressemblent et avec le discours qui nous va.
Et là, Mahmoud Doua, vous êtes d'accord avec lui? Vous trouvez ça...
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Je suis même très d'accord. Moi, j'aime bien ses prêches, je trouve que c'est cohérent ce qu'il dit et c'est très carré.
Là, la ligne de Mahmoud Doua, vous la définirez comment
Un islam normal. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est l'islam cool, mais pour moi, c'est pas cool, c'est un islam, c'est l'islam que l'on vit au quotidien. Après, le problème, c'est que beaucoup de gens croient qu'on peut vivre l'islam en France quand on le vit dans les pays musulmans en grande majorité. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'il y ait des minarets, ils voudraient faire la prière à l'heure pendant qu'ils bossent. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir qu'on est en France. Les gens qui partent un petit peu dans l'extrémisme, vous avez une très petite partie qui est due aux imams qui sont parfois extrémistes, mais vous avez une grande partie qui est due à Internet.
Tout à l'heure, on parlait avec un fidèle qui nous disait que votre islam, Mahmoud Doua, certains pouvaient le qualifier d'islam cool. Ça vous va comme définition?
L'islam tout court, tel que... Mais un islam dynamique, un islam qui s'adapte, un islam qui fait sourire, un islam qui veut rendre les gens heureux. C'est ça l'islam en fait. Pas un islam crispé, un islam triste, un islam de rejet, un islam de crispation, jusqu'à arriver à ses formes les plus graves, un islam violent.
Est-ce que vous rencontrez, vous voyez régulièrement les autres imams, que ce soit à Talence, à Pessac?
C'est vrai, avant on avait ce qu'on appelle le collectif des mosquées, et on essayait un peu d'unifier, d'harmoniser un peu notre discours, mais aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce que les gens vivent dans des situations de crispation malheureusement. Et puis, il y a un peu un désordre. Du jour au lendemain, quelqu'un, sans formation, ouvre une salle et commence à prêcher. Et effectivement, cet imam a prononcé un prêche, qui a été d'ailleurs diffusé sur le net, en disant que la femme doit obéissance à son mari. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Et puis, c'est contraire aussi à nos valeurs de la République.
Mais donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs islams dans Bordeaux.
Plusieurs interprétations, ce qui est tout à fait bon. Mais il y a quand même des limites, comme le radicalisme, comme l'inégalité homme-femme, il y a quand même des limites. Et là, on est plus dans l'islam. Voilà.
Une jeune fille qui se dirait, est-ce que je suis musulmane, une bonne musulmane sans le voile, on peut être une...
Par contre, là, j'insiste. Tu peux être une très, 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 très bonne musulmane sans couvrir les cheveux. En ayant la confiance en Dieu, en faisant sa prière, en ayant un bon comportement avec sa famille, en ayant des bonnes notes...
Thank you.
décor avec des jeunes. Allez, vas-y.
Merci.
Comment vous voyez l'islam à travers ce que disent les journalistes?
D'accord, avant tout, c'est une religion de paix.
Et pourtant, il y a aujourd'hui des gens qui tuent au nom de l'islam, qui veulent venger le prophète par la violence.
Et la semaine dernière, avec l'imam, vous avez parlé de la mixité, non?
Quand on voyait un homme et une femme dans la rue.
Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. C'était quoi ce truc de quand on voit un homme et une femme dans la rue?
Nous, dans l'islam, quand un homme et une femme sont en couple, ils ont un minimum de pudeur, ils vont pas se montrer au regard de tout le monde qui s'aime, enfin voilà. Et donc nous, quand...
Parce que ça attire l'attention et les musulmans doivent être discrets. Voilà.
Quand on est à l'école, par exemple, c'est dur de pas être mixé, on va dire. Il y a constamment des garçons et des filles, donc on a abordé le sujet de la bise. Pour aux garçons, qu'il fallait éviter au maximum ça. On va tout de suite tendre notre main parce que quand t'as un garçon, c'est pas notre frère ou notre oncle, quand il touche cette partie, donc c'est vraiment intime, les joues.
Tu t'appelles comment?
Dina.
Où est-ce qu'on va?
Là, on va dans la salle de prière, là on va lire le Coran et faire la prière.
On les initie au dialogue interreligieux entre les chrétiens et les juifs. Et là, la semaine prochaine, on va à l'église Saint-Michel à l'occasion de l'Annonciation. Vous savez, c'est quoi l'Annonciation? Eh bien, l'Annonciation, c'est quand Dieu annonce à Marie qu'elle sera enceinte sans qu'aucun homme la touche. Et ça, c'est le récit qu'on trouve dans le Coran.
Pourquoi tu trouves ça bien?
Je trouve que c'est passionnant de voir le point de vue des autres religions, pouvoir dialoguer avec eux. Je pense que c'est vraiment intéressant de savoir ce qu'ils pensent de nous et nous ce qu'on pense d'eux.
Et en général, ils se posent quoi comme question par rapport à l'islam?
Par rapport à l'islam, il n'y a pas que des inconvénients à l'islam. Ils pensent que la femme, elle est minoritaire par rapport à l'homme.
Il y a certaines cultures dans des pays musulmans qui ne sont pas dans la religion, quoi. C'est comme on peut prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. La femme, elle a le droit de conduire alors que ça n'a jamais été interdit dans la religion. C'est de la culture, ça.
Il y a quoi d'autre comme question sur la vie quotidienne que vous lui posez parfois à l'imam?
On se pose beaucoup de questions sur la place de la femme. Sur ses droits, sur ses devoirs. Il a tout le temps les bonnes réponses à nous donner. Des fois, c'est choquant pour les garçons, parce que franchement, ils rabaissent les femmes. Et ouais. L'imam est tout le temps là à nous rappeler que non, la femme, elle a autant sa place que l'homme, qu'elle est très présente dans la religion, parce que ça, beaucoup d'hommes l'oublient. Et notamment Khadija, la femme du prophète. C'est l'une de ses préférées. Ouais, c'était une commerçante avec qui il s'est marié.
Et il y a quoi qui choque les garçons parfois dans ce que dit l'imam sur la place de la femme?
C'est surtout pour des choses quotidiennes, souvent il y en a qui pensent que la femme elle est faite pour rester à la cuisine, pour s'occuper des enfants, et il y en a, ça les choque qu'on leur dise que l'homme peut faire aussi exactement la même chose, que la femme est égale à l'homme et que...
Comme référence, le prophète était sa femme, il participait aux tâches comme elle, autant qu'elle même, et peut-être même plus.
Toi, tu disais que tu avais des questions par rapport aux droits et aux devoirs de la femme.
Dans la société, on peut constater des différences entre l'homme et la femme. Alors que l'homme et la femme font le même métier, le salaire de la femme est inférieur à l'homme. Et ça, moi, je trouve ça anormal. Et après, donc, c'est encore plus difficile de montrer aux hommes dans l'islam qu'il n'y a pas d'inégalité. S'il y en a dans la société, comment on peut expliquer ça aussi?
Venir à ces cours, là, le samedi, c'est important?
En fait, le samedi, en général... c'est dès qu'on a... C'est open bar, quand on parle de ce qu'on veut, de ce qui nous dérange, et on nous explique.
Et est-ce que tu as un exemple d'une fois où tu es allé le voir et pour lui poser une question?
Oui. Par exemple, la sexualité et tout, des choses qu'on n'ose pas parler avec les parents, quoi. Et il nous répond sans gêne et tout, donc c'est...
Et c'est quoi sur la sexualité?
C'est par exemple, à notre époque, on est très tenté et tout, donc sur ça.
Et parce que... Quand tu es musulman, est-ce qu'il faut attendre le mariage?
Oui.
Ouais. Mais ça, c'est une question qui revient. Enfin,
Non, c'est pas que ça revient, on le sait, mais des fois, c'est difficile.
Okay. Tu dis que c'est difficile?
Non, mais non. En fait, comme tout le monde fait, tu as envie de faire pour être comme les autres, mais non. Voilà.
Allez, on vous attend, là. Faites-le.
Nos jeunes, comme tous les jeunes, sont confrontés à une sexualité violente. Ce n'est pas une sexualité d'affection. Donc ils vont aussi sur les sites internet, on discute de ces choses de la façon la plus libérale, la plus ouverte possible, pour leur donner une éthique de la sexualité. Mais de respecter aussi, de donner sens à cette sexualité. C'est ça, la sexualité n'est pas qu'un désir. D'accord ? C'est aussi un désir, mais dans l'amour et dans l'affection. Surtout les collégiens et les lycéens, on le voit aujourd'hui, hein, c'est violent. Le rapport aux filles est violent. Bon, il ne faut pas être idéal. Bon, l'idéal, c'est ça, c'est d'être vierge jusqu'au mariage. Mais on sait très bien qu'à un moment ou d'autre, il peut succomber à un désir, à une tentation. Mais malgré ça, on leur dit qu'il faut se relever. Et l'idéal, c'est ça. Mais on les prépare aussi au jour où ils succombent à une tentation. Ce n'est pas la fin du monde. Oui. Se relever et continuer.
Bon, l'adolescence, c'est aussi un moment où oui. les jeunes deviennent un peu rebelles, remettent en cause des choses. Oui. Il arrive qu'il y en ait certains qui remettent en cause leur foi, leur religion.
Moi, je les pousse à parler de ça. Et ils n'osent pas le dire, parce que pour eux, ben, quand même, ils ont été éduqués dans des familles. Je parle des enfants qu'on reçoit, parce que tous les jeunes, on ne les reçoit pas. Il y en a qui sont dans l'athéisme, il y en a qui sont dans l'incroyance, ils ont écouté l'islam. J'ai rencontré la dernière fois un jeune qui est devenu catholique orthodoxe. Moi, je parle des gens qui viennent nous voir, nous. Ils n'osent pas remettre en cause les éléments de la foi, mais moi, je les pousse à s'interroger et à se poser des questions. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi les enfants meurent? Je les pousse effectivement à mettre des questions sur leur foi, à douter même.